Le Salon de l'immobilier et de l'investissement de Paris, du 8 au 10 octobre 2021, au Carrousel du Louvre, sur Radio Immo.
Le Salon de l'immobilier et de l'investissement, 8 au 10 octobre 2021, c'est ici à Paris, Carrousel du Louvre. Comment éviter les pièges en matière d'investissement? C'était le thème de la conférence inaugurale, 10h30 à midi aujourd'hui. On est ravis d'accueillir l'organisateur de cette conférence, Sébastien Barrault. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Calista Patrimoine et donc de ce cycle de conférences. Vous êtes à vos côtés Gilles Duteil. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Membre du groupe européen de la recherche sur la délinquance financière et la criminalité organisée. Et enfin, ça n'a rien à voir avec la criminalité organisée. Olivier Chadler-Malherbe. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel chez Vinci Immobilier.
Bonjour.
Alors Sébastien, je commence avec vous. C'est vrai que vous avez... Vous avez démarré fort ce salon avec cette conférence « Comment éviter les pièges en matière d'investissement ?» On en avait déjà un petit peu parlé sur Radio Patrimoine l'an dernier. Pourquoi vous avez souhaité mettre en place cette conférence ?
Tout simplement, je pense que le rôle de la profession, des professions ici représentées dans le salon, à savoir la gestion de patrimoine, les promoteurs immobiliers, les courtiers en assurance ou bien les courtiers bancaires. Nous avons tous un rôle à jouer important sur l'éducation financière des Français et des épargnants. Et on le voit au quotidien, nous sommes tous sollicités par des emails, des messages sur les réseaux sociaux type Facebook ou autres, nous proposant des super solutions d'investissement avec des rentabilités garanties. Alors, tout ça, c'est entre guillemets, bien évidemment, hein, avec des rentabilités garanties et extraordinaires qui vont nous promettre d'être riches. Et il me semblait, à l'époque, quand nous avons organisé cette conférence, alors maintenant, ça date d'il y a un an et demi, deux ans, puisque nous aurions dû faire cette conférence l'année dernière, mais le salon, à cause des conditions sanitaires, n'a pas pu avoir lieu. Je le déplore et je le regrette. Et puis surtout, on a vu que pendant les confinements successifs, les sollicitations extérieures de personnes indélicates ont explosé, fleuri, etc. Et voilà. Et je pense qu'au lieu de cacher les choses et de mettre la poussière sous le tapis, vaut mieux en parler concrètement et sereinement et avertir les personnes. Mmh. C'est pour ça que je remercie très chaleureusement à la fois l'organisation du salon, comme Exposium, mais aussi les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner, comme Olivier Châtelain-Malherbe de Vinci Immobilier, belle maison et très réputée, bien évidemment. Jean-François Hetzel, qui est malheureusement absent sur cette conférence, mais qui est là à distance, de IDSoft Top Invest. Et puis notre conférencier, que vous avez présenté tout à l'heure, Gilles, qui a animé ce matin une conférence où la salle était comble, avec, on peut le remarquer, c'était assez sympa d'avoir pas mal de jeunes qui venaient d'école parce que en fait ce sont eux qui seront on va dire les futurs interlocuteurs intermédiaires auprès du grand public et c'est important que eux aussi soient sensibilisés et voilà.
Alors Gilles Duteil, justement, vous êtes membre du groupe européen de la recherche sur la délinquance financière et la criminalité organisée. Ce matin, une grosse conférence justement pour nous parler de ces arnaques, de ces pièges qui ne sont pas nouveaux, même si aujourd'hui on rentre dans une forme de digitalisation de ces offres et certains tombent dans le panneau. Je dirais de tout temps, il y a eu ces arnaques qui se sont présentées depuis quand en fait ça a commencé?
J'allais dire que c'est le deuxième plus vieux métier du monde.
Oui, hein. On connaît le premier.
Donc ça remonte à la nuit des temps en fait. Il y a toujours eu des gens qui voient des opportunités et qui les utilisent à mauvais escient.
Ouais.
Ça se retrouve effectivement, j'allais dire, dans tous les pays. Quel que soit le temps, au Moyen-Âge, il y avait déjà des escrocs hein, et des gens qui essayaient de tirer... J'allais dire bonne fortune de celle des autres. Mmh. Alors maintenant, moi, je reprends des événements plus contemporains et le non moins célèbre Carlo Ponzi, qui lui a perfectionné l'escroquerie. Il s'est aperçu que comment faire marcher une escroquerie, comment appâter, j'allais dire, de nouveaux investisseurs, c'est de faire croire que le système marche en promettant des rendements.
Extraordinaire,
qu'on peut difficilement imaginer. Mais pour faire croire que ça marche, on prend de l'argent même souvent à l'investisseur initial. On lui prend par exemple 10 000 euros, l'exemple que je donnais ce matin. Et la rentabilité promise, c'était 50% par an, payable en 4 fois. Donc chaque fin de trimestre. À chaque fin de trimestre, effectivement, le pondier arrivait et disait « je vous apporte vos intérêts ». Il alignait ses 1250 euros. Et déjà, l'investisseur rentrait dans une joie immense. Il dit « ça marche ». Il était persuadé que c'était une escroquerie. « Ça marche ». Donc, il continuait. Les plus prudents attendaient encore une échéance. Et la deuxième échéance arrivait. Et 6 mois, jour pour jour, pondier arrivait et payait les intérêts. À partir de là, les gens, spontanément, c'est ce qui différencie de la pyramide, qui a une structure, j'allais dire, hiérarchique forte. Là, spontanément, des futures victimes en apportent d'autres et vont taper dans la sphère familiale.
En fait, ils se vendent même auprès de leurs amis, de leurs collègues, en disant « bah voilà, j'ai trouvé le filon ». Et souvent, d'ailleurs, et c'était le cas d'un célèbre escroc bon, qui vient de mourir cette année, Bernard Madoff, qui a fait à peu près la même chose. Et
il faut le remercier, il a popularisé le mécanisme de Ponzi qui n'était pas vraiment reconnu avant.
En tout cas, la notion, c'est de club fermé aussi. C'est-à-dire que c'est réservé à une élite et donc souvent avec des montants encore plus élevés.
Pour Ponzi, c'était certain, c'était l'élite. Et même pour attirer davantage les clients, il en rabaissait certains en disant « vous voulez rentrer dans mon fonds, c'est hors de question, nous ne sommes pas du même monde ». L'exemple que je donnais, c'est que ces mêmes personnes couraient pour savoir où ils jouaient au golf, allaient dans ce club de golf, prenaient des inscriptions avec des droits d'entrée faramineux pour essayer de croiser Ponzi sur le parcours et renouveler leur offre. Et souvent, ils les jetaient à nouveau. Puis la troisième ou la quatrième fois après les avoir jetés, Madoff dit « bon, on commence à se connaître maintenant, je vous accepte comme client, mais on va commencer petit, 5 millions de dollars ouais. » qu'ils recevaient le jour même, hein, à peine ils étaient au Clubhouse, que le chèque était fait. Et finalement, c'est par un certain dédain, parce que moi j'ai appris que c'était un personnage qui était assez dégoûtant. Il a même, j'allais dire, escroqué sa propre secrétaire personnelle.
Ouais. Ah oui, je vois ça.
Qu'il a apporté dans le système et lui a piqué son argent, ses moyens.
Alors, on va arriver à la chute aussi de ces fameuses pyramides de Ponzi, mais vous racontez aussi que certains, des fois, ont des doutes, et il y a même eu des gens, alors là, on parle de Ponzi, hein, donc c'était dans les années 20-30 à peu près, 1930.
Au début des années 20, c'était 1903-1907, voilà. Le gros de la période Ponzi.
Donc, qui viennent dans son hôtel particulier, et là, voilà, il y a une inquiétude.
Alors ça, c'est quelque chose d'énorme, c'est comme sur les marchés financiers, il y a une inquiétude, c'est ce qu'on a vu il y a 2 jours en bourse, la bourse a plongé de 2,5%, hein, sur une rumeur, elle a repris dès le lendemain, etc. Là, chez Ponzi, on retrouvait un peu cette même attitude. Il y a eu quelques investisseurs qui ont dit « c'est quand même bizarre », qui se sont posé des questions et qui ont dit « mais peut-être il n'y a rien derrière, c'est une escroquerie ». On commençait à répandre la rumeur. Et très rapidement, des investisseurs se sont regroupés devant le bureau de Carlo Ponzi en exigeant le remboursement, en tapant aux portes et trucs comme ça. Et Carlo Ponzi tournait dans son bureau. Il savait très bien qu'il n'avait pas l'encaisse suffisante pour pouvoir payer ceux qui étaient déjà devant chez lui. Il a réfléchi longuement et à un moment, il a dit à ses employés « ouvrez la porte et payez ». Au grand étonnement de tout le monde et surtout des employés qui savaient très bien ce qu'il y avait en caisse. Donc, les employés ont ouvert, ils ont commencé à payer. Et comme les gens ressortaient avec leur argent, ils ont dit « non, non, ils payent, tout va bien ». La confiance est revenue. Les gens n'ont plus demandé de leur remboursement et certains qui avaient été remboursés ont été rapportés l'argent à Ponzi, ce qui est quand même merveilleux. Comme quoi la notion de confiance est très importante, que ce soit sur les marchés financiers, auprès des intermédiaires.
Bien sûr.
Et dès qu'on a une relation d'argent, c'est la confiance qui doit jouer. C'est pour ça que les intermédiaires sont en première ligne et qu'ils ont un devoir, j'allais dire, de vérification pour s'assurer qu'ils ne sont pas dans un mécanisme douteux avant de le proposer à leurs clients.
Et bien sûr, le mécanisme donc, est éventé. Le jour où justement il y a un accident de marché, Madoff, c'était la crise des subprimes.
Ça a toujours été le cas pour ceux que j'avais traités bien avant. Dès qu'on a une crise de liquidité ou une crise de croissance, sens. Tant qu'on est avant la crise, les liquidités sont disponibles, les banquiers prêtent, etc. Jusqu'à un moment où les marchés financiers et monétaires se resserrent. Et là, on arrive dans des phénomènes qu'on a appelés les credit crunch. C'est-à-dire les banquiers ne distribuent plus d'argent. Auquel cas, ces personnes sont obligées de se retourner sur leur épargne et sollicitent les Ponzi en remboursement. Et là, la catastrophe intervient rapidement après.
Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant cette histoire parce qu'on voit que ça se répète année après année. Olivier Châtelain-Malherbe, vous êtes rien à voir bien sûr avec les arnaques, mais je pense à vous parce qu'on a utilisé le nom de Vinci pour une arnaque au parking alors que Vinci s'est retiré, c'est devenu Indigo, enfin ça a été vendu, etc. Pourtant, voilà, y a des noms comme ça sur lesquels on capitalise pour attirer le chaland parce que c'est connu.
En effet, et ma présence à cette conférence était aussi là pour prouver que, d'une part, on pouvait faire des investissements qui étaient valables et qui tenaient la route avec des bonnes entreprises. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est de se méfier même de ceux qu'on peut connaître et de toujours croiser les informations pour les sécuriser le plus possible. Et en effet, nous avons eu la douloureuse, mais pas fâcheuse, je l'ai mis dans le mauvais sens, puisqu'on a coupé très vite la rumeur, mais voilà, sur la toile, sur le web, était proposé de vendre des parkings à la découpe dans les aéroports, au nom de Vinci, ce qu'on n'a jusqu'à aujourd'hui jamais eu, et avec des rentabilités au-delà de 20%. Et du coup, comme c'est des petits tickets, c'était de l'ordre de 30 à 50 000 euros, et bien c'est très facile. Il y a des gens qui avaient des bas de laine, il y a des gens qui avaient mis cet argent de côté, donc ils ne faisaient pas appel au crédit, donc ils n'allaient pas voir leur banquier.
Donc ils payaient cash.
Et donc c'était du cash, et voilà, ils donnaient en échange cette possible rentabilité. Voilà, et donc évidemment on a mis fin à ce site internet qui vantait le mérite, mais ça s'est retrouvé, comme le disait Sébastien Barraud tout à l'heure, sur Facebook, hein, sur des réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs mis en évidence dans notre site internet, et on rappelle qu'il faut faire attention et nous contacter directement, ne pas hésiter.
Ouais, et pour le coup, c'était même pas important. Je pense que personne n'a jamais rien touché de ces investissements. C'était
c'est complètement perdu. C'est du paiement à fond perdu.
Ça peut être du Ponzi à partir du moment où la rentabilité est élevée. Certains investisseurs qui ont investi parce qu'ils utilisent un marketing agressif vont inciter d'autres gens de leur famille, du cercle amical, pour rentrer dedans. On a toujours ce mécanisme qui rentre.
Voilà, les premiers entraînent en fait les autres. Sébastien, ce qui est étonnant, c'est quand on voit le profil en fait des gens qui se font arnaquer, il n'y a pas vraiment de classe, hein, pour peu que vous ayez un peu d'argent ou beaucoup d'argent, que vous soyez éduqué financièrement ou pas, tout le monde est susceptible de tomber dans ce miroir aux alouettes finalement.
L'appât du gain, la cupidité, comme l'a très bien expliqué Gilles ce matin, la cupidité, l'appât du gain, le rêve, faire rêver les gens. C'est simple, efficace et malheureusement souvent dévastateur parce que ça peut être, comme le disait Olivier, des bas de laine, l'argent qu'on a mis de côté pour préparer sa retraite ou autre, etc. Ça peut être des personnes effectivement âgées. Enfin, il n'y a pas de profil type en fait. Vous savez, c'est comme quand on va au casino. Au casino, on pense toujours qu'on va gagner. Le problème, c'est qu'on sait que si on met... En tout cas, moi, quand j'y vais de temps en temps, ça m'arrive pour m'amuser, je mets un ticket, je sais que ce ticket-là, si je mets 50 euros, par exemple, je me dis, je vais dépenser 50 euros dans la soirée, mais je ne vais pas aller au-delà, quoi. Je sais qu'à la limite, je vais le perdre. Et que généralement, enfin, j'ai rarement gagné. En tout cas, l'État a gagné plus que moi. Et en tout cas, moi, j'ai perdu à chaque fois mes 50 euros. Mais ce n'est pas grave, ça faisait partie du jeu. Là,
on parle pas de jeu, on parle d'investissement.
Ben oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on parle pas d'investissement.
Non, mais enfin, on voit pas la différence. Je veux dire, celui qui n'est pas éduqué, puisqu'on parle d'éducation financière, c'est compliqué parce que c'est extrêmement bien fait. La plaquette, elle ressemble, les logos sont les mêmes.
Oui, mais
le site internet est très bien fait. En fait, ce qui peut mettre la puce à l'oreille, on va en discuter. C'est quoi? C'est souvent après, on vous demande de payer sur un compte qui est à l'étranger. On peut pas joindre les gens. C'est un numéro de téléphone.
Le liquide, l'étranger.
Le liquide, ils auraient préféré un bon virement, hein, que des espèces.
Virement, c'est instantané, c'est bien.
Voilà, c'est instantané. Ça part, et dès qu'il arrive, il est redirigé, donc c'est quelque chose qui est très difficile à suivre. Alors quand on parle,
on peut pas récupérer une fois qu'on a fait
une fois que c'est à l'étranger, c'est difficile, ou on peut le récupérer si on agit pratiquement dans l'heure. Et parfois l'OCRGDF, la police judiciaire, donc chargée de la grande délinquance financière, intervient et incite les banquiers, et parfois les banquiers entre eux, parce que pour annuler un virement, il faut que les deux banquiers soient d'accord. Et souvent le banquier de l'escroc, il n'est pas d'accord du tout. Mais quand on parlait, vous abordiez les catégories socio-professionnelles, c'est vrai
oui.
que moi j'ai eu...
Est-ce qu'il y a un profil type ?
Non, il n'y a pas de profil type, ça va des gens très simples, qui chez eux le problème devient compliqué, se termine parfois par un suicide, parce qu'ils avaient promis des choses, etc. Et moi j'ai même eu, dans un de mes dossiers, un président d'une très grande compagnie mutuelle d'assurance. Et qui s'était fait aborder par un vieil escroc belge qui portait le nom de Ketteler, qui avait réussi à lui faire signer des billets à ordre pour 9 milliards de francs sur les comptes des adhérents. Et heureusement, la police judiciaire est arrivée la veille de l'encaissement du premier effet. Mais attendez, quand vous prenez un président d'une compagnie d'assurance ou d'une mutuelle qui fréquente les marchés financiers au quotidien et à qui on promet 100% de rentabilité annuelle, pour qu'il y aille, c'est qu'il avait, à mon avis, des mauvaises pensées.
Voilà, mauvaises pensées, effectivement, talent exceptionnel. Oui. Sébastien, il y a une autre type d'arnaque qui sévit, parce que là, on parle, c'est vrai, du B2C, c'est-à-dire pour les particuliers, mais les sociétés ne sont pas épargnées. On parle, il y a beaucoup de problèmes d'usurpation, et je crois même que vous en avez été victime.
Oui, là, c'était dans une optique de B2C, mais en fait, il y a plein d'arnaques, en fait. Et c'est vrai qu'il faut vraiment... Gilles a insisté ce matin sur le fait de prendre le temps. Malheureusement, nous sommes tous sursollicités par notre travail, par nos activités professionnelles, nos familles, parce que des fois, on ne les voit pas autant qu'on voudrait. On est assez sursollicités. Et dans la précipitation, on fait des conneries. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est le cas. Et là, j'ai eu le cas, là, en tant qu'exposant du salon, je l'expliquais ce matin, on reçoit des courriers, tout simples, qui disent que si on veut être dans le guide d'exposants, avec mettre en avant notre logo, notre savoir-faire, qui on est, etc., eh bien, il faut envoyer les éléments à telle adresse, il faut signer un bon de commande, sauf qu'en fait, c'est pas marqué, enfin, c'est écrit tout petit en bas, derrière, qu'il faut signer, et puis qu'en plus, c'est à titre reconduction. Donc, en fait... Voilà. Sauf que si une boîte, si on regarde bien la raison sociale, etc., elle est basée à Chypre ou ailleurs, et puis derrière, ils vous envoient des huiciers, enfin, ils menacent d'envoyer des huiciers, parce qu'en fait... Ouais, mais oui, d'ailleurs, c'est les huissiers de Lille.
Même ils poursuivent devant au civil, et la plupart du temps, ils gagnent au tribunal.
Ah ouais, alors moi c'est simple, hein, j'ai vite arrêté le truc, j'ai été porté plainte pour escroquerie, parce que ça ne m'est pas arrivé sur ma structure, mais sur l'organisation professionnelle que je représente aussi de temps en temps, qui est l'Anacofi Immo. Ça nous est arrivé il y a 4 ans sur le salon de l'immobilier. Malheureusement, on a signé. Il n'y a pas eu de vérification. Après, c'est des choses qui sont humaines. Ouais. Hein, c'est normal, hein, c'est ce qu'on disait. On est tous pris et puis on a peur. On veut bien faire, en fait. C'est ça le problème. C'est que souvent, on veut bien faire là-dessus. Là, c'était pas de l'appât du gain. C'était vraiment on veut bien faire. C'était de l'administrative, en fait. Et on s'est dit, putain, on a oublié de signer ça. Il faut faire ça. Bref. Et ben du coup, j'ai dû faire la queue au commissariat du 9e. Alors, c'est sympa. Hein. Les procédures sont assez simplifiées maintenant. On peut porter en ligne en plainte, etc. Enfin, plainte en ligne, etc. Mais mine de rien, ce temps-là, on l'a perdu. Donc, on a voulu, en voulant gagner du temps, en fait, et des fois, souvent en voulant gagner de l'argent, c'est le principe de base, et ben on est amené à faire des bizarreries... qu'on n'aurait pas fait en temps normal, et le cerveau déconnecte par moment. Et je pense qu'en termes de psychologie, sur la partie, en tout cas B2C, même B2B, hein, on peut tomber dedans assez rapidement, et même les professionnels peuvent se faire avoir sans souci.
C'est ce que les professionnels de Automonopolis appelaient l'escroquerie à l'annuaire professionnelle, souvent, qui existe depuis presque 20 ans, hein, l'histoire de signer le bon de commande.
On l'a souvent. Olivier Châtelain-Malherbe, vous êtes, on va dire peut-être par rapport à des structures associatives, c'est vrai qu'il y a souvent des compliance, etc. Mais on a vu une autre type d'arnaque, c'est vrai que c'est l'arnaque au président aussi. On dit carrément, tiens, il peut y avoir dans les services internes d'une grosse maison, tiens, j'ai le PDG, on va dire, de Vinci en ligne, le big boss qui est là, il veut un virement tout de suite à un directeur, à un sous-directeur. Et là, c'est difficile aussi de contrôler, de dire non, etc.
Exactement, mais ça nous arrive. Alors, on ne s'est pas fait avoir, parce qu'heureusement, il y a une chaîne de valeur, il y a une chaîne de valeur et une chaîne de signature qui permet justement qu'il y en ait un qui se dise « c'est pas en correspondance avec nos habitudes et nos démarches ». Donc, nous, ça passe par la signature du président, ça passe par le juridique et par le financier. Et c'est très rare que ça passe les 3 étapes. Voilà, donc, mais ça nous arrive, hein, et plus... très souvent, on n'en entend pas parler, évidemment, parce que ça, oui, dès la première phase, soit juridique, soit financière, on s'aperçoit que ça n'a aucun rapport, correspondance avec les habitudes de notre direction générale. Mais on pourrait être sollicité sur des montants importants. Hein. Vous imaginez bien que dans l'immobilier et dans la promotion immobilière, on parle de chèques de centaines de milliers d'euros très rapidement, donc pour bloquer un terrain, pour une caution, des accords. Plein de choses peuvent arriver, donc on est évidemment sollicité, mais on a de la chance. On a un service informatique déjà qui filtre beaucoup la partie mail, les sites internet également, puis après c'est les services et la chaîne séquentielle de validation.
Voilà, alors très bon exemple, ça va parler à toutes les structures qui sont organisées comme vous et qui doivent être vigilantes. Sébastien, parce qu'on peut aussi donner des conseils à nos auditeurs, pour tout ce qui est usurpation d'identité, votre conseil c'est quand même de vérifier de temps en temps, tiens sur Google, qu'est-ce qu'on dit de moi, comment ma société, tiens Calista Patrimoine, peut-être Radio Immo demain, est-ce qu'on est toujours là, est-ce qu'on n'a pas été piraté, est-ce qu'il n'y a pas un site fantôme qui existe?
Ah, ça arrive malheureusement, ça m'est arrivé il y a 3 ans, j'expliquais ce matin. Par hasard et heureusement, et je touche du bois, c'était sur de la partie SCPI, société de gestion, donc société civile de placement immobilier, c'est-à-dire que c'est de l'immobilier indirect. Bref, je tombe, c'est une société de gestion qui m'appelle et je n'avais pas de mandat avec. Donc tout de suite, elle s'est dit, c'est bizarre que cette boîte Calista Patrimoine propose de la SCPI, de souscrire en SCPI chez moi, alors qu'en fait, on n'a pas de mandat, etc. Donc, de par mes fonctions, je suis un petit peu connu dans la profession. Du coup, tout de suite, la personne m'appelle en me disant « Tiens, Sébastien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce site est à toi ?» Enfin, est-ce que c'est... Et ben, je dis « Ben non, c'est pas du tout à moi. » Et c'est comme ça qu'on a découvert le poteau rose. Mais ça aurait pu durer peut-être 2 semaines ou 3 semaines et avoir des gens qui se font arnaquer. Ou ça aurait pu... Peut-être que c'est arrivé. Et c'est arrivé peut-être sur des SCPI avec qui j'ai des mandats.
Oui.
C'est des trucs tout bêtes. Hein, où ça aurait pu très bien arriver sur de l'immobilier. Peut-être que demain... Ça pourrait être le pompon, ça. Un site, je ne donne pas d'idée, ouais, je vais vérifier du coup. Un faux site internet Calista Patrimoine, avec toutes les habilitations, etc., qui vont bien, qui propose du parking Vinci Immobilier, et, alors qu'en fait, tout ça, on sait que rien n'existe, parce que je propose bien évidemment pas de parking, alors, en tout cas, pas de parking Vinci Immobilier, puisque ça n'existe pas. Enfin, on peut aller jusqu'au bout de l'absurdie, en fait. Et des fois, ça va même très loin, parce qu'on parle d'un intermédiaire type gestion de patrimoine, mais ça peut monter jusqu'au banquier, ça peut monter jusqu'au notaire, ça peut monter... Tous les intermédiaires peuvent être dedans, même des avocats peuvent être sources ou des experts comptables. Donc, il faut être vigilant, comme le disait très à propos Olivier tout à l'heure, il faut sourcer. C'est pas parce qu'on a une information à un endroit qu'elle est forcément véridique. C'est marrant, on pourrait parler des fake news dans la presse et compagnie. Hein. Il faut essayer de croiser les informations pour pouvoir recouper la confiance. Gilles l'a très bien expliqué. On a du mal à l'avoir. Il faut faire confiance aux gens, bien évidemment, parce que c'est de l'humain, en fait. On est dans une relation dans la durée avec les gens. La gestion de patrimoine, ça se fait pas. C'est pas de la vente one shot. On crée du lien. On connaît les clients nous connaissent. C'est la difficulté d'Internet aussi.
C'est à cause d'Internet, bien sûr.
Un peu loin. Et du coup, nous, on est des obligations d'origine des fonds, par exemple, ou d'identité de la personne avec qui on travaille. Si le gars, on ne l'a jamais vu, je ne sais pas comment on peut faire.
Mais vos fameuses SCPI vendues par Calista, le lendemain, elles étaient vendues par un autre.
C'est très difficile
de suivre les gens, en plus, sur Internet, de les faire condamner, puisque un site, on peut en créer de n'importe quelle partie du monde. Gilles Duteil, un mot pour... là, on a parlé, donc, grosse entreprise structurée qui peut... vérifier un moment, tiens, il y a une alerte, ça ne correspond pas à ce qu'on devrait faire. Les moyennes structures, pour les particuliers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qui doit amener la puce à l'oreille? Alors, on a dit, hein, évidemment, placement à 100%, 20%, mais à partir de combien?
À partir du moment où, si on vous dit que c'est un placement à court terme sans risque, sur le taux à court terme sans risque, c'est-à-dire celui des bons du Trésor et des obligations assimilables au Trésor, quand vous regardez ces taux sur la Banque de France, échelle de taux, jusqu'à 5 ans, ils sont négatifs. Comment on peut gagner? Plus.
On ne peut pas gagner plus de 1%.
On ne peut pas gagner plus de, j'allais dire, presque 0,5% si on veut. Ou même en ce moment, quand on vous propose sans risque un placement à 5%, déjà, c'est un signal d'alerte. Et je disais effectivement qu'un des moyens, c'est de contacter l'AMF et le service Info Épargne et leur dire un petit peu la proposition que vous avez. Eux, assez rapidement, vous répondront d'y aller ou de ne pas y aller. Et surtout, vous avez même un petit test en 6 questions et ils vous donneront le niveau de risque.
D'accord.
qui est affronté. Et à partir du moment où vous êtes dans un niveau de risque, même de risque 2, à partir de là, attendez la confirmation de l'AMF pour voir si la personne est habilitée. Parce que tous les placements en biens divers, maintenant, sont soumis à autorisation antérieure de l'AMF, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, il y a une liste blanche qui est effectuée. Si les gens ne sont pas dans la liste blanche, déjà, ça pose un problème.
Bon, pour résumer, quand c'est trop beau, hein, il faut quand même se méfier. Alerte.
Quand la mariée est belle, généralement...
Trop belle.
Trop belle. Il peut y avoir un souci. Merci Olivier d'avoir précisé trop belle.
Parce qu'il y a des mariées belles.
Elles sont toujours belles. Finalement, elles sont toujours belles. Pardon. Parce qu'en plus, ouais. Je suis concerné au premier titre bientôt. Donc voilà.
Attention. Donc éviter les pièges en matière d'investissement, c'est vrai que c'est, bah oui, c'est une grande question qu'on peut se poser, bah, surtout sur ces métiers, tous ces métiers finance, on brasse beaucoup d'argent, etc. Et on peut y être soumis également. Pour aller plus loin, Gilles Duteil, voilà, pour ceux qui souhaitent s'intéresser au sujet, est-ce qu'il y a des sites à recommander, des ouvrages?
Le site à recommander pour les placements, c'est surtout celui de l'AMF,
oui,
qui en parle maintenant beaucoup, qui a développé ce petit test justement, et surtout qui a les listes blanches avec les autorisations accordées et les listes noires. Alors par contre, les listes noires, il faut les interpréter comme il faut, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'une société n'est pas encore sur la liste noire que tout va bien. Il faut un certain délai, il faut qu'elle soit signalée pour apparaître en liste noire. Donc tant qu'on n'a pas une confirmation d'un côté ou d'un autre, il vaut mieux éviter. Il y a le site de l'ACPR qui fait la même chose pour les financements douteux. Donc pour le moment, c'est les deux sites que je préconise pour les personnes physiques et morales. Parce que quand on parle des intermédiaires, il y en a certains qui devraient se renseigner.
Bien sûr, il faut avoir le réflexe. Bah, c'est noter le site de l'AMF. On salue Claire Castanet qui est très en pointe, hein, qui avait poussé un cri d'alarme effectivement durant le confinement. Il y avait effectivement une recrudescence de toutes les arnaques sur internet, ouais, voilà, vraiment de tout. Donc attention, l'AMF et la CPR.
Après, je pense qu'il faut quand même préciser qu'il n'y a pas que des arnaques non plus, il y a des très bons produits. Là, l'objectif de la conférence était comment éviter les pièges, parce que c'est pas, il faut arrêter de dire que tout est beau dans la vie. Il y a aussi des mauvais côtés, mais après il ne faut pas mettre le focus que sur les mauvais côtés. Il y a plein de belles choses qui existent, il y a plein d'investissements qui existent et qui peuvent être performants, qui peuvent être par contre sur la durée bien évidemment, et puis dans l'immobilier, voilà. Après si vous allez voir des grandes maisons, généralement il n'y a pas de risque ou peu de risque. Il faut se méfier des trucs qui apparaissent comme ça, qui
font le buzz.
Ouais, trop de buzz. Garantie
sans risque. Voilà. Ça, c'est...
Garantie sans risque, c'est, ouais.
Okay. C'est une gros impossibilité technique.
Et gros rendement. Parce qu'en fait, même sur l'immobilier, il y a un risque. Il y a toujours eu un risque. On peut avoir un risque sur plein de choses, de locataires. Mais il suffit de l'expliquer aux gens.
Et il faut l'assumer.
Il faut l'assumer.
Justement, on va terminer par vos stands, messieurs, puisque vous êtes là sur le salon de l'immobilier et de l'investissement durant ces trois jours. Olivier Châtelain, avec Vinci Immobilier, vous allez proposer l'ensemble des produits qui se font actuellement, puisqu'on sait, voilà, on parle beaucoup, Pinel, Nu Propriété, LMNP, les gens peuvent venir vous voir pour en discuter.
Tout à fait, on est donc au centre du salon. Et sous la marque Vinci Immobilier Patrimoine, c'est la spécificité en fait des conseillers qui sont présents sur ce salon. C'est leur capacité à vendre la totalité des dispositifs, ainsi que de l'accession à la propriété. Donc vous retrouvez évidemment la location meublée non professionnelle, le Pinel, du démembrement. Et voilà, pour le moment, c'est tout ce que nous faisons chez Vinci Immobilier. C'est déjà beaucoup.
Oui, c'est pas mal.
Déjà pas mal.
Et vous travaillez évidemment avec les conseillers en gestion de patrimoine qui ensuite vont proposer votre...
Depuis toujours. Et c'est vraiment, nous, une distribution. C'est une distribution, mais importante pour nous. Il faut savoir qu'un conseiller en gestion de patrimoine regarde le patrimoine à 360 de son client. Et dès l'instant qu'il prescrit un produit, et si c'est le nôtre, bien tant mieux, on a la certitude qu'il a fait une découverte financière derrière cette proposition, et donc on a la certitude que le client ira jusqu'au bout et avec nous. Donc pour nous, c'est très important de fidéliser les conseillers en gestion de patrimoine chez nous.
Bien sûr, et tiens, on le précise, hein, autre tamis ou filet de sécurité, quand on a un gestionnaire de patrimoine, si vous lui parlez en fait d'un produit exceptionnel, je pense qu'il vous donnera rapidement son avis, et souvent un avis éclairé.
Ainsi que les banquiers d'ailleurs.
Ainsi que les banquiers.
Ne pas hésiter à en parler à ses banquiers. Tout ce qui est exotique, même si les banquiers ne sont pas toujours renseignés au même titre que les particuliers. Et pardon pour eux, mais bon, malgré tout, s'il y a un virement qui doit passer, ils seront un peu vigilants. Voilà.
Sébastien, vous aussi, Sébastien Barraud, vous êtes présent ici dans ces trois jours, Calista Patrimoine, le stand. L'idée, c'est de rencontrer des particuliers, des partenaires, des professionnels.
Non. Pour ma part, oui, je vais aller rencontrer des partenaires, un petit peu faire du, ce qu'on appelle du relationnel, du B2B. J'ai mes conseillers qui sont présents sur le stand, eux, pour renseigner les particuliers. Je les remercie d'ailleurs d'être présents pour faire leur travail, et ils le font très bien, et on va aller, on travaille, on essaie, nous, de faire aussi, de faire attention aux partenaires avec qui on travaille. C'est vrai que moi, dès que je connais pas ou que je sens pas le truc, honnêtement, je cherche même pas, je dis next, comme on dit.
Il vaut mieux. Merci en tout cas à vous trois. Gilles Dutheil, merci. Je rappelle que vous êtes membre du groupe européen de recherche sur la délinquance financière, la criminalité organisée. Merci à Olivier Châtelain-Malherbe, directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel chez Vinci Immobilier. Et merci à Sébastien Barrault, fondateur de Calista Patrimoine. Est-ce que vous avez déjà, Sébastien, le thème de la prochaine conférence ?
Alors, la toute prochaine sera adressée seulement aux professionnels, et j'essaye de monter quelque chose sur le dépassement de soi avec un aventurier de renom qui est suisse, qui vit en Suisse et qui est d'origine sud-africaine. Je suis en pleine négo, donc je ne vais pas trop dire, parce que si j'en dis et que derrière il me facture énormément, ça va être compliqué. Mais voilà, ça va être ça. Et puis pour l'année prochaine, je n'ai pas encore réfléchi sur le thème du salon de l'année prochaine. Il faut que je voie avec l'organisation, mais on va trouver quelque chose d'assez sympa et qui fasse un petit peu bouger les lignes.
Merci à tous les trois et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur notre antenne.
Merci.
Le Salon de l'immobilier de l'investissement de Paris du 8 au 10 octobre 2021 au Carrousel du Louvre sur Radio Immo.